Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Nos invités sont les membres du groupe Pop Rock Cats on Trees. Miaou. Lisa Marie Marquez va dresser leur portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à nos célébrités toulousaines avant leur célébrité mondiale. Marc-Antoine Lebray avec nous pour clore l'émission. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Vandel. Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour mon petit chat.
Tous les jours Bruno, Cats on Tree, vous traquez ici les incongruités médiatiques et lundi soir, vous êtes tombé sur une scène totalement improbable entre les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden.
Oui, on pourrait appeler ça Malaise TV, Philippe. La séquence s'est déroulée en marge du G7 qui se tient actuellement en Allemagne. C'est BFM TV qui l'a retransmise et elle est, comment vous dire, spectaculairement embarrassante, je vous raconte. À l'image, le président des États-Unis est à l'extérieur. Il marche avec quelques-uns de ses conseillers. Il est en grande conversation avec l'un d'entre eux lorsque, tout à coup, Emmanuel Macron presse le pas, le rattrape et l'apostrophe. Il s'excuse de l'interrompre et, alors qu'une caméra parfaitement visible est en train de les filmer, Macron s'adresse à Biden en anglais et lui dit ceci. Nous avons traduit ses propos en français pour que vous les compreniez parfaitement.
J'ai pris la décision d'appeler le président des Émirats Arabes Unis. Je lui ai demandé d'augmenter sa production.
Voilà, il lui explique que pour tenter de résoudre la flambée des prix du pétrole, il a pris une initiative. Joe Biden a l'air totalement interloqué, il a le regard du lapin pris dans les phares d'une bagnole, mais Emmanuel Macron continue malgré tout de lui parler.
Il m'a dit deux choses. D'abord, qu'il est au maximum. Et ensuite, il m'a dit que, selon lui, les Saoudiens peuvent augmenter un peu leur production, mais pas dans de grandes proportions.
Biden regarde alors Macron en se demandant ce qui est en train de se passer. On voit qu'il est infiniment gêné, mais le président français continue devant la caméra à lui raconter son coup de téléphone confidentiel.
Enfin, concernant ce qu'on va faire à propos du pétrole russe, il m'a dit que nous devions nous assurer que l'Inde...
Joe Biden finit donc par lui faire les gros yeux. Il n'est pas content du tout. Il montre la caméra d'un petit coup de menton. Et Emmanuel Macron comprend enfin l'embarras de son camarade américain. Oui, ce sera mieux. On va continuer à l'intérieur, lui dit-il. Voilà. Alors, en d'autres termes, Philippe, Emmanuel Macron a expliqué au monde entier, puisqu'il y avait une caméra et un micro devant lui, une stratégie qui aurait dû rester totalement confidentiel. Joe Biden a immédiatement saisi l'absurdité de la démarche, mais pas Emmanuel Macron, ce qui a fait dire à l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, qui était présent lundi soir sur le plateau de BFM TV.
J'ai l'impression que nos hommes politiques ne sont pas au courant des capacités technologiques des micros.
Le diplomate qui a immédiatement poursuivi son analyse en expliquant ceci.
Je pense qu'il n'a pas vu qu'on l'écoutait. Honnêtement, il avait aucun intérêt à dire cela devant les caméras, alors qu'il vient d'avoir au téléphone le président des Émirats Arabes Unis.
Alors personnellement, Philippe, je pense que Gérard Haro se trompe, ou alors qu'il est resté extrêmement diplomate, car le G7 est l'un des endroits au monde où la communication est la plus maîtrisée, contrôlé, encadré. Il est donc strictement impossible qu'une caméra ait été placée là par hasard et encore plus improbable qu'Emmanuel Macron ne l'ait pas vue. Il a donc, au contraire, assurément voulu profiter de cet œil médiatique braqué sur lui pour montrer qu'il était très complice avec le président américain, mais également qu'il n'hésitait pas à prendre des initiatives et à se retrousser les manches pour essayer de faire baisser les prix de l'essence. Alors voilà, tenter de se donner de l'importance en public pour mieux masquer qu'on en a finalement assez peu en privé, c'est une stratégie de communication politique qui porte désormais un petit nom, un splendide néologisme que les Ukrainiens ont inventé pour désigner le fait de se montrer inquiet d'une situation, de le dire haut et fort, mais de ne finalement rien faire concrètement pour la résoudre. Ils appellent ça macroner.
C'est vrai, ils ont créé un verbe. Le verbe macroner, créé par les Ukrainiens. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain. Là, on est filmé. Donc, attention, je vous préviens, Laure d'Autriche, Olivier Benkemoun, sur Europe1.fr, vous pouvez les voir. Le programme de votre indispensable ce matin, je commence par vous, Laure.
Je vais vous raconter le secret des violons Stradivarius, les violons les plus parfaits qui existent. Plusieurs millions d'euros pour un seul violon. Est-ce que ça vient du bois? Est-ce que ça vient du vernis? On va essayer de percer le mystère.
Et vous serez ici présente avec un Stradivarius pour qu'on puisse l'ouvrir.
Malheureusement.
Olivier Menkemoun, votre indispensable
comme
du jour.
De rock, on ouais. peut la casser, je sais. Ça n'arrive jamais. Mon indispensable, c'est une histoire belge, enfin sombre. C'est un polar belge, s'appelle Entre la vie et la mort.
On en parle tout à l'heure, ce sera le cinéma. D'abord, on va recevoir les membres du groupe Cats on Trees. On parle de leur dernier album, Ali. On écoute tout de suite ce titre, Touk Touk, sur Europe 1.
Drink our tears and get wild. I don't care if the music's too loud. I just want us to shine through the night. We could walk in so many places. We could talk and scream and get high. I don't care, I see the colors of sounds. Give me some love, hold me tight. Do you kids on the road? To you kids on the road. To you kids on the road. Let's get crazy one more night. We're gonna lose it. To you kids on the road. To you kids on the road. To you kids on the road. Let's get crazy one more night. We're gonna lose it. Your shirt and get white. I don't care if you're a boy or a girl. I just want you to stay through the night. Can be two, can be free like never before. You're my friend and I'll give you some more. We don't care, we see the colors of sounds. You're the best kind of mind. Two kids on the road. Two kids on the road.
C'est le groupe Cats on Trees sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Et bonjour, Cats on Trees. Ça va très bien, on va ouvrir votre micro. Oui, on va mettre une petite bonnette sur le micro, comme ça, bon, on sait jamais. Nina.
Oui, c'est moi.
Et Johan Henquin.
Oui.
Nina Goern, vous faites partie, ai-je lu, des artistes prodiges de la scène toulousaine. Un disque de platine, des nominations Victoire de la musique et seulement 3 albums en 8 ans. Et votre actualité, ce dernier album, je ne savais pas comment le prononcer. Ali, ça s'écrit A-L-I-E et une tournée. On vient d'entendre le titre Touk Touk. D'abord, Ali, ça veut dire quoi ?
Ali, c'est un diminutif. En fait, c'est le surnom d'une personne qu'on aime beaucoup, qui nous a beaucoup accompagnés dans notre parcours musical jusqu'à maintenant. Et voilà, on voulait lui faire un petit cadeau.
Un petit hommage, ouais.
Voilà.
Hommage.
Et puis alors, comme j'ai commencé dans l'explication de texte, que veut dire Touk Touk ?
Absolument rien.
C'était le titre mémotechnique, en fait, quand on a composé la chanson.
Et vous l'avez gardé.
Et on l'a gardé, dans le yaourt, ouais, voilà. Parce que c'est ce qui fait le titre, quoi.
Voilà, c'est comme la Fiat 127. Vous connaissez l'histoire ou pas ?
Pas du tout.
Ils voulaient faire une nouvelle voiture, ouais. Et ils ont fait projet sur projet sur projet, jusqu'au projet 127. Celui-ci a été accepté, ils ne trouvaient pas de nom, ils l'ont appelé la Fiat 127.
Ben voilà, bah, c'est exactement ça.
Comme le Chanel numéro 5. Vous chantez en anglais, mais vous venez de Toulouse. Vous avez gardé l'accent toulousain ou pas ?
Alors moi, je ne suis pas née à Toulouse, donc du coup, je n'ai pas l'accent.
Vous êtes une pièce rapportée, si j'ose dire. Voilà. Je vous pose la question, Nina, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé en écoutant le titre Touk Touk attentivement, la prononciation, complètement crazy, la preuve.
Oui,
Oui, c'est vrai.
Vous ne pensiez pas qu'on allait la repérer, celle-là?
Non, pas du tout.
Ben, vous l'avez fait exprès ou au contraire?
Bien sûr.
Vous l'avez enregistré sans faire attention et parfois on garde au montage parce que la prise est très bonne. Alors, et on se dit on ne refait pas.
C'est exactement ce qu'on fait. Nous, on a tendance à garder les imperfections.
Les accidents. Mmh. Et donc là, vous avez dit crazy. Cats on Trees a toujours un son très soigné, très léché même. Vous voyez la petite référence, le chat lèche. Et cette fois-ci, je dois faire un compliment, vous avez fait fort. Vous n'avez pas travaillé avec n'importe qui pour le son. Qui est Liam Ho, qui est le réalisateur?
Bah, Liam Ho, c'est un réalisateur anglais qui a travaillé avec des noms comme Lana Del Rey, Adele. Et voilà, c'était un héros, et on lui a envoyé comme une bouteille à la mer. Moi, je me rappelle, on ne s'attendait pas du tout à avoir une réponse de sa part. Et en fait, il a écouté quelques chansons qu'on avait maquettées et préarrangées. Et il a décidé de travailler avec nous parce qu'il trouvait qu'on était les Cardigans français. Et voilà, ça nous a beaucoup plus touchés. Et la collaboration était vraiment hyper fluide. C'est quelqu'un de très simple, et c'était d'autant plus simple qu'on était chacun chez nous, dans nos petits home studios respectifs, et on le voyait...
Vous n'avez même pas fait l'album ensemble. Je veux dire, vous étiez chacun dans un studio, c'était à la période du confinement. Faut
oui, exactement. On ne pouvait pas aller en Angleterre, donc du coup, il était...
Non, mais vous-même, tous les deux, vous enregistrez chacun, chacune, à un endroit différent.
On a alterné les moments où on était ensemble, et on a passé finalement plus de moments séparément que de moments ensemble. Et la collaboration avec Liam Ho, qui était rigolo, c'est qu'on a pu vraiment enregistrer en pyjama. C'était chouette.
Ça s'entend. Blague à part, qui est Spike, alias Mark Stand? Qui est-il? Parce qu'il était là aussi pour s'occuper des voix.
Bah, c'est un...
C'est le mixeur, non?
Ouais,
c'est bien
ça. C'est un héros. Je pense qu'il fait partie des trois meilleurs mixeurs mondiaux. Il a encore mixé le dernier Harry Styles. Il a fait tous les albums d'Ed Sheeran. Il a bossé avec Muse, Elton John. Et en fait, nous, c'est la première fois qu'on travaille avec quelqu'un qui nous envoie juste un mix. Et c'est le bon mix, en fait. Il y a pas de retouche, tellement il spatialise bien les trucs, il est fort. Et c'était vraiment un honneur immense qu'il accepte de travailler avec nous. On a halluciné.
Je voudrais qu'on entende un autre son. C'est une reprise de votre tube du premier album Siren Calls, mais c'est une autre version. Là, c'est un remix par Chaka Ponk. Comment vous avez travaillé ensemble? Qui a fait quoi? Vous leur avez donné les bandes et vous êtes partis? Comment ça veut dire quoi, un remix?
Alors, c'est vraiment un cadeau, en fait, de leur part, à l'occasion des 25 ans de notre label, donc on a en commun, qui s'appelle Tôt ou Tard. On a eu l'occasion de se reprendre, en fait, les uns les autres, et ils nous ont fait la surprise de reprendre Siren's Call. Et donc, c'est Sam, à la base, qui chante sur cette reprise, donc la chanteuse de Chaka. Et en fait, on a trouvé ça tellement génial qu'on s'est dit qu'en fait, on allait juste mettre ma voix sur leur son et le mettre sur le disque, quoi.
Ouais, c'était fou. En fait, on a une relation assez proche avec eux. On a beaucoup de trucs en commun, en fait, des valeurs. Et puis surtout, c'est des gens, je me rappelle, qui nous ont aidés dès le début. Les premières grosses scènes qu'on a fait, c'était grâce à eux, en fait. On a fait leur première partie au Zénith de Toulouse, à Carcassonne, dans l'amphithéâtre. Et c'est des beaux humains. En fait, on fait pas du tout la même musique, mais on se respecte énormément et on se soutient, quoi. Mais c'est un peu la célébration d'une amitié, parce que ce label, les artistes et les gens qui y travaillent, c'est un peu comme une famille.
C'était comment le premier Zénith à Toulouse? Vous êtes toulousain.
Ouais.
Cette fois-ci, je me trompe pas. C'était comment?
Moi, je suis toulousain d'adoption, pareil, parce que je suis né à Vincennes, mais j'ai toujours vécu à Toulouse, donc je me sens vraiment toulousain.
Et vous étiez comme ça?
Ah ouais, Zénith, en fait t'as l'impression d'être sur un bateau, je me souviens, les gens, c'était presque irréel, quoi.
Ah oui, le sol tanguait.
Bah ouais, et puis surtout, nous on est passé de tout petit club avec 3 personnes à des Zéniths avec 9000 personnes, donc c'était n'importe quoi.
La progression de Cats on Trees, on va l'entendre dans le portrait pré-fame d'une Toulousaine, c'est Lisa Marie Marquet, c'est pour ça que je posais la question. Culture Média continue.
Europe 1, Culture Média.
Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé ramasser des objets que je voyais comme des trésors. Et il y a des passions qui ne disparaissent jamais. En recyclant des déchets chez De Richbourg Environnement pour les transformer en nouvelles ressources, je contribue tous les jours à protéger la planète. Et nous sommes des milliers à en avoir fait notre métier.
Chez De Richbourg Environnement, plus de 5000 collaborateurs œuvrent pour l'économie circulaire.
Aldi.
Dans la vie, on n'a pas tous cette copine qui nous dit
« Et faut pas rater ça !»
Car les jeunes pousses d'endives Origine France sont en ce moment chez Aldi à seulement 1,99€ le sachet de 6 endives. Oui, ce fameux « Et faut pas rater ça !» qui permettrait à votre petite vinaigrette balsamique de rencontrer LA salade de ses rêves. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
320 grammes, soit 6,22€ le kilo, info sur aldi.fr.
Connaissez-vous Jules Eugène Le Nepveu ? Artiste du 19e siècle, il a peint de prestigieux décors pour le musée du Louvre, le Panthéon et même le premier plafond de l'Opéra Garnier à Paris. Aujourd'hui, Angers, sa ville natale, lui rend hommage. L'exposition Jules Eugène Le Nepveu, peintre du Monumental, est à découvrir au Musée des Beaux-Arts d'Angers jusqu'au 8 janvier 2023. Avec Europe 1.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, on les arrête plus.
Lidl ?
Ah bah oui. En ce moment, les deux pavés de saumon ASC sont à 5,49€ les 280 grammes.
5,49€ les deux pavés de saumon ?
Ah oui, et ils sont à moins 24%.
Là t'arrêtes.
Ah oui mais on est mal hein.
T'arrêtes ?
On est très mal même.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5% de remise immédiate sur tous vos achats avec l'appli Lidl Plus. 19,61€ le kilo, élevé en Norvège. Offre valable jusqu'au mardi 5 juillet. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Envie d'émotions fortes ? Tant mieux. Car la fête du cinéma revient à partir du 3 juillet. Vous allez pouvoir plonger pendant 4 jours et pour 4 euros la séance dans la fête du cinéma. Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet, à 4 euros la séance. On est tous accros au ciné.
Leclerc.
Alors, prête pour les vacances ?
Presque. Il me manque juste des casques pour le voyage. Parce qu'alors, avec deux ados fans de rap, je te dis pas le niveau sonore dans la voiture.
Bah, t'as de la chance. Le casque sans fil JBL est à 24,90€.
24,90€ ? Génial. Un pour chacun et le calme pour moi.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Du 28 juin au 9 juillet, casque sans fil JBL T500 BTB avec 25€ de réduction, dont 2 centimes d'éco-participation. Voir conditions de garantie en magasin, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Europe.
Vous êtes toujours dans Culture Média sur Europe 1. Dans un instant, Lisa Marie Marquez va dresser le portrait pré-fame du groupe Cat Century. C'est dans moins d'une minute.
Europe 1.
À l'écoute des initiatives responsables.
Depuis plus de 30 ans, Clarins s'engage et soutient la recherche sur les maladies articulaires. Docteur Olivier Courtin, directeur de Clarins et président de la Fondation Arthritis.
La Fondation Arthritis est née parce que ma mère était atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde. À l'époque, il y avait peu de traitements efficaces et mon père, la voyant souffrir, s'est dit qu'il fallait qu'il fasse quelque chose et donc il a décidé d'organiser la recherche. Tout ce qu'on appelle les maladies musculo-tendineuses, articulaires, il y a plus de 16 millions de personnes en France. C'est la première cause des hospitalisations. On n'en parle pas assez par rapport au nombre de gens que ça représente.
Pour en découvrir plus ou faire un don, rendez-vous sur fondation-arthritis.org.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et oui, quand on fait un plein de courses avec les produits de la marque Netto. Ce n'est pas que pour le prix, c'est aussi pour le bio, le fabriqué en France, les AOP et les produits du quotidien. Et c'est pour ça qu'on les aime.
Netto, on gagne tous à payer moins cher.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du groupe Cat Centuries. On parle de leur album, de leur tournée. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de la Toulousaine Lisa Marie Marquez, le portrait de nos célébrités avant leur célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Nina, bonjour Yvan.
Bonjour.
Avec Cat Centuries, vous proposez au public une musique lumineuse dont les titres restent dans les oreilles. Révélation du printemps de Bourges en 2010. Vous avez sorti 3 albums. Vous avez été nommé aux Victoires de la musique en 2014, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Johan, je vais commencer par vous. Vous êtes né à Vincennes et vous avez grandi dans la région toulousaine, ce qui nous fait un point commun. Toulouse en force ce matin.
Ouais,
enfant, vous êtes plutôt sage, bercé par la variété française et les chansons à texte qu'écoutent vos parents à la maison. Ouais. Votre maman est journaliste à la Dépêche du Midi et vous l'accompagnez un jour faire un reportage sur l'école de batterie d'Ante Agostini. Wow. Et peu après, vous vous mettez à la batterie à votre tour. Puis plus tard, vous formez un groupe avec un copain, le groupe Seaside, c'est bien ça?
Ouais. T'as trouvé ça?
Ouais.
C'est dingue.
Et les Toulousains, ils se tutoient.
Oui, bah oui.
Non, oui. Ouais, mais bien sûr, c'était mon premier groupe avec un chanteur. Et j'avais 11 ans et je savais pas jouer, mais j'avais déjà commencé à faire un groupe. Ouais.
T'avais pas un groupe qui s'appelait Ketchup aussi?
Oui, en fait, la genèse de tout ça, c'était Ketchup. C'était un duo où, à la base, je devais chanter et faire du piano. Mais finalement, mon pote qui était batteur, il avait décidé de se mettre à la guitare et on a inversé. J'ai appris la batterie. Mais je me rappelle, j'avais un micro qui pendait dans ma chambre avec lequel on s'enregistrait. Je l'avais accroché au clown de mon enfance. Voilà, n'importe quoi.
Nina, c'est à vous. C'est non loin de Toulouse, dans le Gers, que vous avez vécu. Et la musique, elle fait partie de votre vie depuis toujours. La musique classique, d'abord, vous y arrivez par le piano grâce à votre grand-mère. Vous allez ensuite suivre des cours à l'école de musique et avec votre professeur Anne-Marie, qui se souvient de vous comme... Elle se souvient de vous comme d'une élève assidue au grand cœur et elle vous a beaucoup pouponné, je crois.
Mais vous lui avez parlé ?
C'est la filière toulousaine. Elle vous a pouponné, Anne-Marie ?
Elle m'a pouponné, mais elle était pas tendre avec moi. Hein.
Non.
Et c'était une grande dame. En fait, moi, c'était une dame qui m'impressionnait beaucoup. Elle était très.
C'est vrai. Je l'ai rencontrée après, je me rappelle. Ouais, elle avait une.
Très maquillée, très apprêtée. Et en fait, c'est une dame, on dirait qu'elle sort d'un autre siècle, en fait. Vraiment. Et elle m'a appris la rigueur, mais avec beaucoup de douceur.
Johan, parmi les musiques qui vous inspirent, on retrouve Leonard Cohen, Bob Dylan et aussi le King of Pop, Michael Jackson. Vous, Nina, je le disais, il y a d'abord la musique classique, Chopin, Debussy, mais vous vivez également une période de boys band à crier dans votre chambre avec vos copines. Et ça vous fait un point commun, les boys band, parce que Johan, je crois que vous avez accompagné deux copines au
mais
concert
non.
des Worlds Apart.
En fait, c'était des filles que j'aimais beaucoup et j'ai fait l'effort de faire ça pour les accompagner parce que je les aimais vraiment beaucoup, beaucoup.
Voilà, c'est que vous aviez 25 ans, c'est ça le problème ?
Non, j'étais beaucoup plus jeune.
Non, vous avez quel âge, blague à part, évidemment.
Le
boys band, c'est quand on est ado, c'est pré-ado.
Ça devait être en pleine puberté, ouais, genre 14-15 ans.
Non, mais ça, c'est une excuse, t'adorais les Worlds Apart.
Mais bien sûr.
Mais non, pas du tout. En plus, j'étais sidéré parce que je les voyais jouer sur des instruments. Enfin, il y avait des musiciens, mais tout était en playback et c'était tellement flagrant parce qu'il y avait des micros placés n'importe comment, une batterie qu'il y avait dans un local de répète, alors que c'était une scène de Zénith avec une scéno incroyable. Bon, bref, j'étais vraiment sur une autre planète, quoi.
Moi, j'ai vu Alliage en concert.
Ouais.
Beau dossier.
Nina et Johan, vous vous rencontrez à la fin de vos années lycée via une amie en commun qui souhaite monter un groupe. Vous formez alors Aeria Microcosme, un groupe de rock. Vous êtes alors 5, Baptiste à la guitare, Béra pour le chant, Murray à la basse, Nina au clavier et Johan à la batterie. On écoute Aeria Microcosme.
Mais non.
T'as trouvé ?
Je dois dire ce qui se passe en studio. Ils sont sciés, ils se regardent tous les deux, ils ont envie de discuter, ils n'ont plus du tout envie d'écouter, ils veulent revenir sur ce dossier.
Non, mais c'est génial. Et en plus, moi, c'est fou, ça fait hyper longtemps que je cherche en fait des morceaux d'Aeria. On n'en trouve pas, évidemment.
Et ben,
j'ai trouvé.
Les a.
T'as trouvé. C'est la mafia toulousaine,
ah,
ça.
C'est dingue. Ah, j'avais pas écouté ça depuis 1000 ans.
Avec Aeria Microcosme, vous enregistrez quelques titres, vous avez un site internet et un MySpace. Johan, vous avez souvent des idées de chansons, de musique, et vous enregistrez ces idées en appelant votre répondeur téléphonique. En vous laissant un message, faute d'avoir de quoi enregistrer.
C'est ça, ouais. À l'époque, j'avais pas de dictaphone et c'était le seul moyen de pas perdre mes
pratique.
Idées. Ouais, ouais.
Mais
il le fait toujours. Hein.
Ouais, ça marche, ouais. C'est ma méthode principale de composition. Mais en fait, je sais que. Enfin, maintenant, j'ai plus de mémoire, donc j'arrive à garder une idée sur un trajet en parlant à des gens. Mais des fois, j'ai une super idée et puis il y a quelqu'un qui va passer une chanson ou un truc et je vais l'oublier et c'est perdu. Voilà.
Nina, au départ, vous êtes au piano, votre instrument de prédilection, et vous faites également les chœurs. Jusqu'au jour où vous enregistrez une chanson où vous chantez. Et Johan, vous êtes scotché par sa voix et on vous comprend. Johan, après le bac, vous faites un BTS tourisme pendant que Nina, vous étudiez la musicologie. Et puis, vous décidez de vous lancer dans un projet musical tous les deux. Vous sentez que vous pouvez vous compléter. Et pour le nom, vous décidez de garder celui du MySpace de Nina, Cats on Trees, des chats dans les arbres. Peut-être un clin d'œil à votre côté perché ou bien au chat blanc de Johan, Timothy, je crois, qui montait toujours dans l'arbre devant la maison.
Zébulon.
Zébulon. C'est pas loin.
Quand même,
c'est pas loin. Mais il montait bien dans l'arbre devant la maison.
Ouais, bien sûr. Oui, oui.
Nina Johan, vous formez donc un groupe, un duo Cats and Trees. Vous commencez à vous produire sur les scènes toulousaines, souvent en première partie, au Bikini, au Saint-Dessin, Place Saint-Pierre, jusqu'à votre rencontre avec le producteur Pierre Rougeant, grand producteur, qui va vous accompagner jusqu'à votre premier succès, Sirens Calls, un titre qui va passer en boucle en radio, une musique sensible en anglais qui embarque le public dans votre univers. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Wow. Merci beaucoup, Lisa Marie Barquez. Les applaudissements, les applaudissements des Toulousains. Et le dossier, la pire tête que vous avez faite, c'est le dossier BTS Tourisme.
Ah ouais,
heureusement qu'on n'avait pas le temps de tout ouvrir.
On ne pouvait pas le développer.
Ouais, on va donner tous les noms. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Cats and Trees, on est avec Nina, on est avec Johan. Le dernier album s'appelle Ali, album que vous défendez sur scène. Avec quelle configuration? Parce que là, quand on entend le son, il y a beaucoup de couches de musique, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de post-production. Ça ne peut pas se faire comme ça en live. Vous jouez comment? Quand on vous voit sur scène, vous êtes au clavier et au chant, et Johan est à la batterie.
Et au chant.
C'est ça. On a fait le choix de ne pas reproduire l'album sur scène, en fait, et d'assumer d'être quatre et de faire avec les instruments qu'on a sous la main. Donc un bassiste qui joue aussi un peu de clavier.
Et qui vient de Tahiti.
Qui vient de Tahiti, d'ailleurs.
D'accord.
C'est important. Oui, parce qu'on l'a rencontré là-bas. On a joué là-bas, en fait.
Parce qu'il aurait pu avoir une manière spéciale, tahitienne, de jouer de la basse.
Déjà, il a des chemises.
En fait, surtout, c'est la culture américaine, parce qu'il jouait tous les soirs. Et du coup, parce que là-bas, il n'y a pas l'intermittent, c'est pas du tout pareil. Et du coup, c'est un virtuose, c'est un génie. Il comprend tout très vite. Et il a une douceur aussi, une tranquillité qui nous a fait énormément de bien. En fait, on l'a fait venir tellement on l'aimait pour cette tournée, parce que pour nous, c'est hyper important que les gens voient son talent.
Je salue tous les bassistes non tahitiens dont je fais partie, qui ne comprennent pas tout très vite. Et puis sinon...
Et une violoniste qui est multitâche, qui joue du clavier, qui chante, qui fait tout, le café aussi.
Et alors, juste une question, parce que dans Sud-Ouest, c'était en février, vous avez déjà tourné pas mal avec ce spectacle. Vous avez annoncé une scénographie incroyable entre théâtre et musique, c'est-à-dire...
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un voyage à travers nos rêves, donc je ne peux pas trop en dire, mais il y a des miroirs sur lesquels on reflète des images un peu obscures et aussi des peintures de Johan et des sculptures, c'est très joli et très bucolique.
Je vais donner quelques dates pour la tournée, parce qu'il y aura les festivals d'été. Vous serez à Saint-Priest, c'est juste à côté de Lyon, le 1er juillet. À Fouesnant, le 7 juillet. À Champagnole, dans le Jura, le 9. Aix-les-Bains, je crois que c'est le festival Musilac, le 10 juillet. Mmh. Et puis cet automne, Annemasse, Alençon, Perpignan. Si j'oublie des dates, on les donnera à la fin. Votre violoniste, elle a un Stradivarius?
Non, quand même pas.
Même si il faut toujours dire non, parce que sinon on vient vous le voler.
Après, je pense que les violonistes, ils n'ont pas de Stradivarius. On leur prête, mais ce n'est pas accessible.
Évidemment, c'était juste pour faire le lien avec Laure d'Autriche. Bonjour, je vous salue à nouveau. Vous allez nous raconter, Laure, la vie du plus mystérieux des luthiers, celui qui a fabriqué les violons qui sont devenus les plus chers du monde, donc les Stradivarius.
Oui, parce qu'un très beau livre vient de paraître, je l'ai entre les mains, Stradivarius et la lutherie de Crémone de Jean-Philippe Échard, aux éditions du Musée de la Musique. Alors, il parle des luthiers talentueux qui sont tous installés au XVIIe siècle dans la ville de Crémone en Italie. Et c'est aussi ici que s'installe Antonio Stradivari. Les Stradivarius sont considérés comme des instruments parfaits. Ça peut monter jusqu'à 15-20 millions d'euros pour violon.
J'allais dire 20 000, mais je suis un peu loin.
Ça monte très très haut. Alors Stradivari fabrique à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe des violons, mais aussi des altos, des violoncelles. Imaginez-le, il ouvre son petit atelier, il choisit les meilleurs morceaux de bois, d'épicéa, d'érable, il coupe, il ponce, il vernit, il modifie la forme du violon selon, au fil de sa carrière, la forme des violons évolue, un peu plus grand, un peu plus petit, un peu plus mince, un peu plus étoffé, et puis il donne aussi au vernis une couleur plus intense. Alors depuis des décennies, des acousticiens, des chimistes tentent de percer le secret du maître. Quel est ce secret? Est-ce qu'il réside dans le vernis, comme l'ont longtemps pensé les spécialistes? Eh bien non, répond Jean-Philippe Échard, l'auteur de ce livre et conservateur au Musée de la Musique à Paris.
Il est tout simple et il est superbe. C'est-à-dire que les ingrédients, il n'y a pas d'ingrédients secrets. La seule chose absolument admirable là-dedans, ce sont des pigments rouges, à la fois très rouges et très transparents, ce qui fait que le vernis est intensément coloré, tout en étant extrêmement lumineux et brillant.
On entend ici la violoniste Isabelle Faust dans Bach. Isabelle Faust qui joue sur un Stradivarius de 1704, surnommé la Belle au bois dormant. C'est le nom de ce violon. Donc ce sont les aspects visuels du vernis qui contribuent aussi à l'aura de ces instruments depuis des siècles. Mais de son vivant déjà, il est une star, Antonio Stradivari. On raconte que Jean-Sébastien Bach et Vivaldi ont joué sur des violons Stradivarius.
Donc c'est pas le vernis. Alors le secret, ce sont les matériaux exceptionnels utilisés.
Voilà, les matériaux, c'est évident parce qu'il y avait un bois d'extrême qualité à cette époque, mais la clé pour les experts aujourd'hui, c'est surtout son savoir-faire unique. Stradivari meurt en 1737 à 93 ans.
Ah oui ?
Il aura créé plus de 1100 violons et aujourd'hui dans le monde, il en reste 600. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un jour tomber par hasard sur un Stradivarius oublié ? J'ai posé la question à Jean-Philippe Échard.
Il est encore possible que certains réapparaissent un jour, mais aussi les chasseurs de Stradivarius ont été extrêmement actifs dès le début du 19e siècle, parce que ce sont devenus des objets de collection, des objets de prestige, même pour des gens qui n'étaient pas musiciens professionnels. C'est aujourd'hui extrêmement improbable, on va dire, de trouver au fond d'un grenier un Stradivarius qui ressortirait comme cela.
On entend ici le concerto pour violon de Mendelssohn joué par Midori et son Stradivarius aussi. Alors en tout cas, ces violons, personne n'a aujourd'hui réussi à les reproduire à l'identique. Beaucoup ont essayé. Personne n'a trouvé ce son aussi merveilleux, aussi angélique. Si j'essaie de caractériser le son d'un Stradivarius, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose d'extrêmement brillant, d'extrêmement clair, de pur, de rond, et aussi avec une profondeur sonore dans ces instruments. Si vous avez la chance d'aller à un concert, vous pouvez peut-être entendre un instrumentiste qui a aujourd'hui un Stradivarius. Il y en a beaucoup dans les grandes salles de concert en France. Cette histoire du violon, donc, Jean-Philippe Échard la raconte dans Stradivarius et la lutherie de Crémone, publiée aux éditions du Musée de la Musique.
Vous sembliez passionnés tous les deux à écouter l'or d'Autriche.
Oui, c'est une belle histoire. Mais après, je me demande aussi jusqu'où la qualité du son réside pas aussi dans la qualité de l'interprétation.
Oui, bien plus, sûr, l'interprète, évidemment.
Et puis, je pense que tu as des instruments qui vieillissent bien aussi. Je sais que les guitares, les batteries, les violons, les cordes vieillissent bien et évoluent bien avec le temps. Ce n'est pas le cas de tous les instruments.
Tout à fait.
Il est arrivé dans l'histoire.
Olivier Benkemoun.
Il est arrivé dans l'histoire qu'on vole des Stradivarius.
Évidemment.
Ah ouais.
Mais comme c'est invendable, ils ont toujours été rendus.
Bah, magnifique. On va parler de cinéma avec Olivier Benkemoun. Merci beaucoup, Lord Autriche.
À bientôt.
À la saison prochaine. Culture Média continue. À tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Blandel.
Nous sommes avec Nina et Johan, c'est le groupe Cats on Trees. On parle de leur dernier album Ali, on parle de concert, on a parlé de violon. On a aussi parlé de cinéma avec vous, Olivier Benkemoun. Rebonjour. Votre indispensable, faites pas cette tête, votre indispensable cinéma, c'est un polar belge.
Je suis content de vous voir.
Pareil.
J'aime les histoires belges.
Voilà.
J'aime
encore heureux. Allez-y, expliquez-nous.
Bon, alors, effectivement, c'est un polar belge qui sera peut-être le polar de l'été. Ça s'appelle Entre la vie et la mort. Et pour vous mettre un peu dans l'ambiance, vous aimez la musique. Donc je vous ai mis un petit tapis musical, comme ça. C'est un polar en forme de puzzle qui va vous perdre dans la vie d'un homme qui semble être un simple conducteur de métro. Il est d'origine espagnole, il vit depuis des années à Bruxelles. Un jour, le drame, un jeune homme se jette devant sa rame, sauf qu'il ne s'agit pas de n'importe quel jeune, c'est son fils qu'il n'a pas vu depuis 2 ans.
Oh
l'horreur.
Oh mon Dieu.
Et surtout le début d'une série d'interrogatoires par la police.
Bonsoir, inspecteur principal.
Comment il va ?
Malheureusement, la personne est décédée au bloc opératoire.
Vous n'avez pas respecté la procédure en cas d'accident. Le conducteur doit rester à bord de la cabine, ne jamais descendre sur la voie. Que vous a-t-il donné ?
Que lui a-t-il donné à ce père effondré ? En tout cas, quelque chose qui va le contraindre à fouiller dans le passé de son fils, apercevoir qu'il a participé à un violent braquage dans lequel la police avait un agent infiltré. Évidemment, tout cela n'est que le point de départ de cette enquête dans le milieu du grand banditisme. On ne comprend pas immédiatement d'ailleurs les liens, les ramifications et surtout pourquoi la police colle une telle pression à un simple conducteur de métro. Probablement parce que ce simple conducteur de métro n'est sans doute pas le simple conducteur de métro qu'il semble être. Voilà, c'est ce que la police tente de savoir.
Il y a un truc qui ne plaît pas avec ce type.
Interpol ne donne pas accès à son dossier.
Qui est ce type ? D'où sort-il ? Pourquoi la justice lui a permis de changer d'identité ?
Eh ben vous le saurez en allant voir Entre la vie et la mort. Beaucoup de questions. Vous avez vu comment interroge la police belge est quand même formidable. C'est le genre de polar moi que j'adore. Il y a le côté rédemption du héros qui doit se venger tout seul. Et peu à peu on comprend pourquoi il a la capacité, l'énergie de le faire. Pourquoi il sait aussi bien se battre et manier les armes à feu. La ville de Bruxelles. Vous connaissez Bruxelles ?
Oui.
Bon, est filmée de manière assez inhabituelle, métallique, bétonnée. L'image est très soignée par un chef opérateur flamand. Beaucoup de scènes autour de l'Atomium, monument avec les 9 immenses sphères métalliques comme ça. Autour de cet endroit, il y a d'immenses parkings assez sombres, filmés de nuit, souvent sous la pluie, ça crée une ambiance.
Et est-ce qu'on voit Madame Moustache ?
On voit pas du tout. Monsieur Moustache. On voit beaucoup de Monsieur Moustache.
C'est un club qu'on connaît bien.
Le tout souligné par la musique électronique et souvent inquiétante de l'excellent DJ et producteur Laurent Garnier.
Ah ouais.
Dans le rôle des policiers qui se font assez malmenés, souvent devancés, Olivier Gourmet, comme toujours brillant, et Marine Vacte, découverte par François Ozon dans Jeune et Jolie. Marine Vacte qui se frotte pour la première fois à ce genre de polar et avec réussite. Mais le premier rôle, celui du père qui enquête dans le milieu du grand banditisme, est tenu par un acteur espagnol qui a la cote, qui s'appelle Antonio de la Torre. Et puis enfin, il y a ce truc, c'est un film noir belge. Donc, il y a des gueules de cinéma belges. Tout ça fait un excellent film noir qui joue avec le genre, sans complexe, comme le dit son réalisateur Giordano Gedrelini.
C'est un film qui est sans complexe, parce qu'on a un petit côté belge qu'on fait à fond, et ça a de la gueule.
Eh ben, vous en prenez plein la gueule, ah ouais, surtout.
Et plein les oreilles.
Et ce garçon, et c'est aussi le scénariste qui a travaillé avec Lajli sur Les Misérables, qui travaille en ce moment sur le nouveau film de Lajli, Entre la vie et la mort. C'est sa deuxième réalisation et ça sort aujourd'hui parce qu'on est mercredi.
Et ça vous a tenté ?
Ah ouais, super. Bah, Nina adore les polars aussi. Elle en regarde beaucoup, elle en lit beaucoup. Je crois que son réalisateur préféré, c'est Hitchcock.
Voilà. Non.
Ah bah si.
Il fait l'état de votre place. Avant d'avoir des nouvelles de Madame Moustache, vous voulez donner des nouvelles de Top Gun Maverick.
Ouais, Top Gun Maverick.
Ah ouais.
Le film a dépassé les 4 millions d'entrées en France, qui fait déjà un premier record. Le film dépasse également le milliard de dollars de recettes dans le monde, ce qui le fait entrer dans le top 50 des plus grands succès de l'histoire du cinéma. C'est aussi le plus grand succès de la carrière de Tom Cruise, entamé il y a plus de 40 ans et qui va avoir 60 ans le 3 juillet.
Voilà, et vous avez oublié de dire que c'est un film européen. Merci beaucoup Olivier.
Bah, je le dis, c'est un film européen, non ?
Voilà, Culture Média continue. C'est la dernière ligne droite, on est 4 centuries. Marc-Antoine Lebray va nous rejoindre tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Que j'adore et que je voyais comme un morceau extrêmement festif et je savais pas qu'il faisait référence à une actualité tragique. Je l'ai appris en préparant cet entretien.
Ouais, les attentats du Bataclan. Ouais. Mais il fait pas référence. En fait, c'est un morceau qu'on a eu besoin d'écrire juste après les attentats pour. C'est une ode en fait, une ode à la vie et une ode voilà, pour retrouver de l'espoir, ouais, tout simplement.
Moi j'avais trouvé l'espoir sans connaître l'histoire et c'est encore plus passionnant. Vous avez toujours chanté en anglais, à l'exception notable du dernier album, trois titres en français, chanson étonnante, elle s'appelle Une nuit ou deux. On est dans l'empowerment, on va entendre le refrain. Alors vous chantez « C'est toi que je veux, mais seulement une nuit ou deux » et plus loin. On sera une nuit ou deux, le temps d'aimer un peu. On sera juste un instant, mais le meilleur moment, si c'était un garçon qui chantait ça, il se ferait démolir et traiter de misogyne, voire de gros beauf.
Oh non, c'est pas vrai. La beauté des moments uniques comme ça est très court en fait. Et c'est savoir arrêter.
J'ai bien compris. Mais si un garçon disait à une fille « On va se voir, mais une nuit ou deux, et après tu dégages »,
Non, non, mais je. Mais
il va devoir s'expliquer sur les réseaux sociaux. Non, mais vous avez conscience de ça.
Oui.
Je vous le reproche pas, mais au moins c'est franc. Et les filles le disaient jamais, donc voilà.
Non, mais il faut oser le dire.
Qui écrit les textes ? C'est vous qui les écrivez ?
Ouais, les morceaux en français, c'est moi qui les ai écrits.
Et sinon, est-ce que vous les relisez ? Est-ce que c'est collectif, les textes, ou pas du tout ?
Oui, oui. En tout cas, en anglais, c'était collégial. Mmh. C'est vrai qu'on a toujours échangé au moins nos impressions sur ce que ça voulait dire, ce que ça voulait dire pour nous aussi. Et ça permet à l'autre de se fondre un peu dans l'histoire et de mieux interpréter. Voilà. Après, il n'y a pas de règle. C'est sûr que Nina, elle peut écrire un texte de son côté, moi du mien. On échange, on se change deux, trois mots. Voilà quoi.
C'est... Parce que pourtant, on écoute le groupe. C'est un groupe qui est là, mais c'est une fille qui chante. Donc on ne sait pas qui parle.
Ah oui, bien sûr. Mais de toute façon, on est tellement proches et on connaissait tellement nos vies respectives que ce n'était pas difficile de parler de l'histoire de l'autre. Et puis parfois, en fait, on parle aussi d'autres gens ou d'histoires qui nous ont inspirés mais qui sont pas forcément les nôtres et qu'on s'approprie, c'est dans la création quoi.
Puisque vous parlez de votre vie, j'ai découvert que vous aviez une histoire personnelle particulière. Je vais vous citer Nina, vous dites on a été amis, puis amants, puis amis. Je vais pas vous demander si le cycle peut recommencer, je vous demandais qu'est-ce que ça change.
Qu'est-ce que ça change? Déjà c'est, je trouve ça très beau qu'on ait réussi à passer toutes ces étapes, parce qu'on aurait pu s'arrêter à la phase amant, puis après...
Voilà. Ouais, après on arrête tout, il y a plein de groupes qui ont explosé avec ça.
C'est la musique en fait qui nous a... La musique au centre en fait, vraiment résout tout. Et on s'est dit qu'on avait quelque chose ensemble musicalement qu'il fallait qu'on ne perde absolument jamais. Mmh. Et on a fait l'effort, voilà, de se retrouver et d'en faire quelque chose.
Il y aura des concerts cet été, je change de sujet parce que c'est une anecdote que j'aime beaucoup. J'ai appris que vous aviez un petit rituel... qui vous avait été soufflé, si j'ose dire, par une orthophoniste avant les concerts avec une paille, mais c'est pas ce qu'on croit.
Ah oui, non. Non,
vrai ou pas, j'invente rien.
Oui,
hein, je peux pas l'avoir inventé, celle-ci. On a une le coup de la paille avant les concerts.
Ouais, ouais, on a, en fait, on a quelqu'un qui nous accompagne, qui est un peu comme notre coach vocal et sur les événements importants. Elle nous donne des conseils. Elle s'appelle Agnès Claret-Tournier, elle vit à Toulouse. Et c'est vrai qu'elle nous a montré un échauffement en fait avec de la paille où quand tu souffles et tu fais des notes de manière très douce et quand ça souffle de l'air frais, ça veut dire que tu chantes avec le ventre et ça met en place ta voix. Et c'est un échauffement très doux, ultra efficace. Et elle a plein de petites techniques comme ça qui sont des trésors et qu'on emploie.
Oui, moi je suis. Mais il y va plus que moi, toutes les semaines à peu près.
Bah oui, mais parce que j'ai beaucoup plus de travail au niveau du chant que toi.
Voilà. On apprend des doses sur l'orthophoniste et les rendez-vous de Johan. 60 chansons vous avez composées pour le dernier album. Que vont devenir les 45 perdus en route ?
C'est jamais perdu.
C'est jamais perdu, ouais.
C'est comme dans une boîte au trésor dans laquelle on pioche de temps en temps, qui peut compléter d'autres idées ou qui peut générer d'autres idées. De toute façon, avec Nina, on est très très créatifs. Donc effectivement, il y a toujours beaucoup de chansons qu'on met de côté, mais c'est jamais perdu.
Ça sent le coffret en 2054.
Ouais, c'est ça.
400 Trees, les années d'or, avec 45 titres inédits.
Après, tu sais, c'est tellement des maquettes complètement artisanales. Je sais pas si les gens comprendraient le sens du truc. Il faudrait qu'il y ait un producteur qui repasse derrière et qui en fasse quelque chose de lisible. Là, pour...
10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebret. Tous les jours, il y a des stars qui viennent dans Culture Média pour rencontrer nos invités. Et ce matin, Nelson Montfort est avec nous dans les studios.
Oui.
Bonjour Nelson.
Bonjour, oui, mon cher Philippe. Quelle joie de recevoir les Cats and Trees. Hello, Cats. How are you doing? What a great album. So, how do you feel today in Culture Média?
Nelson, Cats and Trees, ils viennent de Toulouse.
Tu rigoles, mais au début, on nous prenait pour des Anglais.
Toulouse, like the French tennisman.
Non, Toulouse, non, pas perdre. Toulouse, la ville.
Laisse-moi faire, Philippe Cocu à Toulouse, excuse-moi, c'est Mika. Non, en fait, Nelson, t'as pas comprise. Cats and Trees, en fait, c'est des Français, mais ils ont un nom anglais. Tu vois, comme toi, Nelson, t'as un prénom anglais alors qu'on est dégoûté que tu sois français. Love today, love today. Bon, vous avez été coach dans The Voice Belgique.
Oui.
Du coup,
pas cette tête.
Du coup, mycose veut dire quelque chose.
Salut les loups. Ouais. Enfin, les chats. Je serais ravi de vous recruter en coach. Sinon, si vous avez un diplôme de médecine, je peux aussi vous engager. Le Botox de Jennifer, les lipodamels et les sevrages de Garou, c'est plus un plateau télé, c'est un hosto. Bon, on hésite presque à enregistrer la saison 2023 directement à l'hôpital américain de Neuilly pour faire gagner du temps à tout le monde, les loups.
Didier Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Vous vouliez intervenir, Didier?
Non, c'était pour dire à Catson Tris que vu les résultats du dernier mondial... En Belgique, les coachs sont bien meilleurs dans The Voice que dans l'équipe nationale. Par contre, m'en voulez pas, j'écoute pas trop votre musique parce que moi, je suis plus chat à dédé que cat centrice. Okay. Bonne journée.
Et Philippe Manœuvre tenait à être là pour vous.
Non, mais cat centrice, quoi. Je les adore. Rien que le nom, les chats sur les arbres, c'est exactement ce que je vois quand je bois ma chicorée le matin. Celle qui Pop m'a ramené de Colombie. Coquedrôle.
Il y a une paille qui reste, je sais pas qui elle est. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray. Merci à tous. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec Magloire. Pourquoi? Parce qu'il anime le Toapi Voice Tour. C'est une tournée estivale de concours de chant qui se déroule dans les campings de France pour trouver des candidats pour The Voice. Lou. Et puis oui, Lou. L'autrice, compositrice, interprète, militante féministe Suzanne. Le dernier titre interdit aux moins de 18 ans. Il s'appelle Clit is Good. Je ne traduis pas.